C'est parti. Les beautés, The Beautiful en anglais, c'est le titre qu'a choisi le magazine People aux États-Unis pour son numéro spécial annuel, consacré depuis presque 30 ans à la plus belle femme du monde. Plus de sentiments de hiérarchie, d'exclusivité féminine ou de formules épuisées, l'idée est bien de changer la perception de la beauté en insistant sur la force, sur le talent, sur l'humanité. C'est la chanteuse Pink qui a été choisie pour être en une du magazine, accompagnée de ses deux enfants. Et cette une vaut le coup d'œil car elle titre et mise sur les talents de mère de famille de Pink. Comment j'élève mes enfants pour qu'ils soient forts. La radieuse maman roqueuse nous parle de gentillesse, d'équité et de comment résister aux méchants. Et là, comment dire, étrangement, il me vient comme un doute sur les nouvelles valeurs qui sont soudain mises en avant, valeurs qui n'ont pas grand-chose de nouveau, vous en conviendrez, qui ont même tendance à remonter le temps et qui véhiculent de drôles d'injonctions. Ce qui se joue dans cette une sont bien les limites du politiquement correct, enjeu de langage toujours, qui vise à résister à la stigmatisation sur le papier, mais qui trop souvent se trouve pris au piège, pris à son propre piège, sorte de prison de papier qui enferme plus qu'il ne libère, qui prend le risque d'aliéner sur tous les sujets, même la beauté.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui traque, révèle, explore la beauté en toute personne et en toute chose. Si son nom reste indissociable de l'univers de la mode, son art du portrait tout en pudeur, en sensualité, en a fait l'une de nos plus grandes photographes. Elle nous fait l'amitié de sa présence ce matin pour parler du présent, d'images, de mots, de musique, de beau. Bonjour Dominique Isserman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Je me suis posé la question, la plus belle femme du monde, si tant est que ça ait un sens.
Je crois que ça n'a pas de sens. Mais c'est toute la lutte qui existe toujours en nous entre détester tout ce que tout le monde aime et adorer tout ce que tout le monde adore.
En vous, en tant que photographe, en tant que femme, en tant que personne?
Oui, et comme tout le monde. Je crois que tout le monde adore les mêmes choses, les mêmes visages, et puis tout le monde cherche à se débarrasser aussi des images qu'on a trop vues.
Vous voulez dire que votre travail de photographe de mode, c'est aussi de résister à tous ces codes qu'on nous impose, en fait?
C'est de les renouveler, c'est d'être un peu à la marge et de pouvoir enfoncer le clou, enfoncer le coin en bois, enfin changer. C'est pas le travail que des photographes de mode, des artistes aussi, qui à chaque fois nous montrent que l'univers qui est devenu harmonieux peut, dans son chaos, de porter une nouvelle harmonie.
Qu'est-ce qui fait la beauté d'une personne, pour vous?
Ah, ça c'est compliqué. C'est l'émotion, c'est tout à coup devant une personne qu'on trouve... D'abord, la beauté d'une personne, c'est le regard qu'on porte sur une belle personne. Et on pense que cette personne est belle parce que ça vous fait battre le cœur, ça vous rend vivant.
Vous voulez dire que la beauté d'une personne, c'est nous, en fait? C'est nous qui regardons?
Ben oui.
Sa complexité aussi, peut-être. D'ailleurs, vous parlez des hommes comme des femmes?
Oui.
Ici?
Oui, oui. Je voudrais d'ailleurs faire un hommage aux hommes qui souvent sont ignorés un peu dans l'univers de la mode. Il y a une grande place que fait aux femmes quand même. Enfin, depuis quelque temps, ça a changé grâce à des couturiers géniaux qui ont exploré d'autres choses que le costume trois pièces.
Justement, comment vous les avez vus évoluer, les critères de beauté, vous, Dominique Isserman? En bien, en mal, en plus complexe?
On trouve toujours que c'est en bien, parce que c'est plus excitant, des nouveaux critères, que des critères anciens. Donc chaque image nouvelle porte son lot de joie et d'excitation. Donc ça semble toujours mieux. On est toujours... personne ne veut ressembler à sa mère, par exemple.
Je sais, par exemple, que récemment, vous avez été interpellé par cette nouvelle loi qui rend obligatoire la mention photo retouchée sous certaines images à usage commercial. Qu'est-ce qui vous a interrogé là-dedans?
Mais parce que je trouve que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, une retouche? Une photo numérique, maintenant, quand vous la mettez sur l'écran, c'est une masse d'informations un peu informe, et il faut la traiter. Donc il faut la traiter déjà avec du contraste, avec une qualité de la peau, avec qui on peut considérer que c'est déjà une retouche.
Oui.
Quel développement? Quand on prend une optique grand angle, c'est-à-dire qui va vous permettre de tirer sur les formes, c'est-à-dire qu'on va avoir des formes très allongées, à ce moment-là, déjà vous perdez 10 kilos avec un grand angle.
Oui.
Donc c'est déjà de la retouche. Le fait de cadrer, de mettre hors cadre des personnages ou de les inclure dans le cadre aussi, c'est retoucher l'histoire, c'est faire
du
revisionnisme.
Donc vous trouvez que c'est une injonction qui est faite en fait au travail du photographe?
Mais oui, pourquoi? On n'est pas là pour faire des photos de passeport ni des photos de police. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les photos de passeport sont de pire en pire. Ce qu'on appelle Par exemple, quand vous allez refaire faire votre passeport dans une mairie, on vous fait mettre devant un appareil photo qui vous flash, mais ça, vous ressemblez absolument à tout le monde. Je peux vous assurer qu'avec ma carte d'identité, je connais au moins 200 personnes qui peuvent passer. Et pourtant, voilà, c'est censé vous distinguer des autres, et c'est une photo de police.
Et pour vous, la photo doit être dans la singularité?
Ah oui.
Au fond, la question qu'on pose, c'est celle de la responsabilité du photographe et des publicitaires aussi, en ceci qu'ils produisent des images, des modèles, des canons de beauté, parfois impossibles à atteindre. Quand est-ce que vous avez pris conscience, vous, de l'impact que pouvait avoir votre travail?
Alors moi, j'ai pris conscience quand j'ai senti qu'on me demandait de faire des photos. Enfin, voilà, quand je sentais que les gens étaient émus, les clients, par exemple, pour les photos de publicité, c'était des demandes émotionnelles. C'était pas des demandes commerciales.
Mais jamais vous vous êtes senti oppressé en fait par des diktats de beauté qu'on vous imposait?
Non. De toute façon. Comment c'était votre expression quand vous avez présenté l'émission? Sans surveillance. Oui, je me sens assez proche de cette phrase.
Vous êtes sans surveillance?
Sans surveillance, oui.
C'est-à-dire que vous avez tendance à gueuler quand...
Voilà, un petit peu, oui.
Qu'est-ce que vous trouvez beau chez vous, Dominique Isserman?
Oh, alors là, ben les vieilles photos. C'est vrai, on ne se voit pas quand on est jeune, alors on se trouve moche. C'est incroyable d'ailleurs. Mais maintenant... Grâce à Instagram ou Internet, les gens m'envoient des photos que je ne connaissais pas, qu'ils ont prises. Et je suis absolument sidérée, parce que je dis quand même, j'étais pas mal.
La question que je me pose, moi, au regard de votre travail, mais aussi après avoir reçu de nombreux photographes à ce micro, comme Sébastien Salgado, Peter Lindbergh, Raymond Depardon, c'est de savoir quand est-ce que vous avez su que la beauté serait l'objet de votre quête de photographe. Pour autant que ce le soit.
Oui, oui, c'est ça, mais ça a commencé même avant les photos, parce que je me souviens quand on visitait des lieux avec mes parents, par exemple, j'adorais aller au château de Versailles, parce qu'il y avait beaucoup de foule, il y avait beaucoup de gens, et je regardais, surtout des filles d'ailleurs, mais que je trouvais très belles, mais j'étais petite, hein, donc je regardais des petites filles aussi, et je restais la mâchoire décrochée. Je me souviens très bien de ce moment de rapte complet, de regarder un beau visage. C'était quelque chose qui me transportait complètement ailleurs, qui me faisait oublier tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc ça, c'est un sentiment très 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 ancien.
Que vous retrouvez, la mâchoire décrochée?
Ah, mais oui, oui. Et je pense que aussi ce moment, parce que Cartier-Bresson en parle en disant l'instant décisif, je sais pas si c'est vraiment décisif, mais c'est plutôt que ça vous prend. C'est comme un enfant qui fait un château de cartes, et il y a un moment, il faut décider que vous rajoutez une carte de plus et tout va foirer. Et là, le moment où j'appuie sur le bouton, je crois que c'est le moment où je sens que ça va pas pouvoir être mieux pour moi, c'est-à-dire que si je continue, ça va se défaire, ça va se déliter.
Par exemple, Sonia Riquiel, que vous croquez de profil en 1980, le bras croisé en diagonale descendante, une cigarette au bout des doigts, c'est une photo iconique. Qu'est-ce qui fait la beauté, là? Qu'est-ce qui décroche la mâchoire?
D'abord, Sonia Riquiel était quelqu'un qui participait beaucoup à la séance photographique, c'est-à-dire elle se donnait beaucoup à l'appareil photo, elle était sans limite, et elle était heureuse d'être photographiée, en tout cas de fabriquer une image avec le photographe. Avec moi, là. Et ça a été comme ça. Elle était tellement gracieuse et elle a fermé son bras pour cacher ses seins parce qu'elle était nue, elle était sans haut. Je ne sais pas si elle était complètement nue ou seulement torse nu. Et ce geste qu'elle a fait, qui était un geste de pudeur, chez elle, évidemment, s'est transformé en geste aussi de provocation avec la cigarette et puis l'air de s'en foutre en même temps. Voilà, c'est tout Sonia, ça.
Et c'est l'émotion que vous avez ressentie, vous, qui vous a donné envie d'appuyer sur le...
Bien sûr, c'est le moment où la joie aussi de pouvoir revenir. D'ailleurs, ça se fait plus facilement maintenant avec les appareils photo numériques, parce que quand on est heureux d'appuyer sur la photo, on retourne vers le modèle et on lui montre sur l'écran derrière.
Enfin, je remarque quand même, Dominique, que vous n'avez pas sorti votre appareil photo ce matin. Je ne sais pas comment je dois le prendre.
Non, mais avec mon téléphone que j'ai éteint pour pas qu'il sonne.
Vous si auriez pu me proposer un selfie quand même.
Non, mais je vais vous le proposer de ce pas.
Celle qui est tout entière dans le selfie, dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité, laide comme le péché, méchante comme une teigne. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 25 avril?
Il est l'or, Monseigneur.
C'est l'or, mes seigneurs, l'or de l'expo or. Le Mucem de Marseille inaugure aujourd'hui une expo rayonnante consacrée aux plus précieux des matériaux, à la croisée des chemins de l'archéologie, de l'histoire, de la création contemporaine. L'événement rassemble 600 objets et 43 artistes pour interroger le pouvoir de fascination mais aussi de perversion de l'or. On pourra notamment y voir les statuettes de Vanni, le pouce de César et des sculptures de Louise Bourgeois. On adore.
L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai.
Mais nous aussi, on veut la voir et on l'aura. America, le plus américain des festivals littéraires français, lève un coin de voile sur son programme. La 9e édition de ce très chic rendez-vous biannuel qui se tiendra en septembre prochain à Vincennes mettra aussi à l'honneur le Canada, le Québec et puis surtout l'écrivain John Irving. L'occasion de célébrer le 40e anniversaire de son roman culte, Le Monde selon Garp. Kiss Kiss et Job de rêve, une annonce publiée sur le site de l'Alliance américaine des musées propose de devenir archiviste des affaires personnelles de Prince. Votre mission, si vous l'acceptez, trier, entretenir et classer 30 ans de documents, d'objets et de vêtements accumulés par le kit de Minneapolis dans son studio bunker de Paisley Park. Côté aptitude, ne pas être allergique au violet, avoir son permis et être flexible. Facile. Mercredi de beauté, en avant le ciné, car aujourd'hui dans les salles obscures on retourne au pays de Marvel avec Avengers, le méga blockbuster de Joe et Anthony Russo. Pour plus de douceur, on prend la route sauvage avec Andrew Hay et sa belle épopée initiatique et hippique. Et sinon, on fait escale devant Transit, la fresque historique et envoûtante de Christian Petzold sur les fantômes de l'exil. Et la photographe Dominique Isserman, invitée de Boomerang ce matin, que je voyais passionnée par l'idée d'archiver Prince.
Mais oui, parce que quand cette personne aura fini chez Prince, elle va peut-être commencer chez moi.
C'est une angoisse pour vous, l'archive?
C'est un souci quotidien. C'est-à-dire, parce on archive sans arrêt. Puis alors maintenant, moi je suis, comme je suis à cheval sur les deux siècles, j'ai des photos argentiques, j'ai des photos, j'ai du Polaroid, j'ai du Polapan, j'ai des photos numériques. Donc j'ai plein de supports différents. Et puis maintenant, l'archivage, vous mettez ça sur un disque dur et là, vous n'êtes pas du tout sûr combien de temps ça va durer parce que tout devient obsolète, les connectiques, les prises, les systèmes disparaissent. Donc, il faut tout le temps updater.
C'est un sentiment d'angoisse,
oui,
j'ai l'impression.
J'ai l'impression que ça... Mais la photo numérique, comme ça, cette impression que tout peut disparaître, vous appuyez sur un bouton. Vous enlevez le cordon électrique d'un ordinateur. Et vous ne voyez plus rien, vous n'avez plus de photos.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des
tandis
tirages.
Tandis qu'avec des tirages, même si vous attendez que le jour se lève, même s'il n'y a plus d'électricité, vous voyez encore quelque chose.
Je voudrais qu'on s'arrête sur une photo de Dominique Isserman. C'est la photo d'un homme que j'aimerais convoquer ce matin. Une photo qui date de septembre 1983, prise à Hydra, en Grèce. On y voit un homme allongé sur le ventre, torse nu, qui vous regarde de trois quarts avec un sourire. Vous vous souvenez du moment où vous avez pris cette photo?
Et oui, très bien, oui. C'était en 80 quelque chose. À Hydra, et c'est évidemment Leonard Cohen sur son matelas pourri sur la terrasse.
Là encore, c'est la beauté qui vous a guidé?
Oui, oui, oui.
C'était un bon modèle, Leonard Cohen?
C'était un bon modèle, il fallait pas trop lui demander de poser, d'ailleurs il aimait pas que ça dure... C'était un peu des photos prises comme ça au vol. Je me souviens pas avoir fait des photos qu'on ait décidé de faire en disant « Bon, alors maintenant il faut faire une photo, faisons-la, mettons-nous en place. » Pas tellement mis en scène. Je l'ai décalé un peu dans le paysage, repris un peu un mouvement de la tête, appelé pour qu'il se mette dans cette belle lumière que je voyais. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on dirige pas non plus. Un peu sans surveillance, lui aussi.
À quoi ça tient, une séance réussie pour vous?
Ah, c'est un sentiment de grande fatigue. On est vidé après une bonne séance de photos, mais pas que moi, parce que c'est un sentiment qu'on partage aussi avec une équipe. Enfin, moi, je fais surtout des photos de mode et donc il y a toujours beaucoup de gens, coiffeurs, maquilleurs, stylistes, modèles, etc.
Ce qui n'entrave pas la possibilité d'une intimité entre vous et le modèle?
Non. Enfin, le téléphone portable entrave pas mal l'intimité avec le modèle.
Et le revoilà qui surgit. Ouais, le
téléphone portable. Parce que je peux vous dire que le téléphone portable, voilà. Ça interrompt la concentration, parce que dès qu'il y a une minute de libre, hop, je refonce sur le téléphone portable.
Faites comme moi, vous les faites éteindre.
Oui, il faudrait, mais j'ose pas, non, je sais pas.
Ah bah il faut
j'ai
dire, pas, on éteint nos portables.
Mais maintenant que vous m'y faites penser, peut-être que je vais le faire.
Oui, on peut appeler ça la clause boomerang, on éteint son portable. Quand vous êtes dans l'intimité, comment est-ce que vous faites pour que votre appareil soit jamais une barrière entre vous et les autres, Dominique Isserman, un objet qui met les autres à distance, derrière lequel le photographe se protège, en fait?
Oui, là, c'est dans les séances de travail. Quand je vais dîner chez des amis, je n'ai pas mon appareil photo devant le visage, quand même.
Non, mais on parle...
manger des spaghettis.
On parle d'une séance de travail, là.
Dans une séance de travail. Mais non, tout le monde est bien avec ils sont bien, ils sont contents de ne pas me voir, je pense, aussi.
Non, parce qu'on parlait de téléphone, justement, et on est dans une drôle d'époque, quand même, où tout le monde, à la moindre occasion, sans cesse, prend des photos avec son téléphone. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur cette démocratisation et cette massification de la pratique photographique, aussi?
Les gens sont toujours contents de faire des photos, d'avoir des souvenirs. Donc avant, ils rataient quand même pas mal leurs photos parce qu'il y avait des réglages, bon, jusqu'aux Instamatiques peut-être. Après, il fallait faire développer, etc. Il y a une immédiateté avec le téléphone portable et une facilité, on l'est toujours dans la poche. Mais bon, est-ce que c'est pas l'invention du stylo Bic qui a augmenté le nombre d'écrivains, je crois.
Sebastião Salgado, il disait quelque chose d'intéressant à ce micro. Il disait, ce ne sont pas des photographes, ce sont des faiseurs d'images.
Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Oui, c'est des faiseurs d'images, mais pourquoi pas? C'est aussi un passe-temps, une distraction. D'ailleurs, c'est parfois difficile d'être un photographe professionnel et d'expliquer que ce n'est pas un hobby, que c'est un métier.
Alors, ce serait quoi, justement, un photographe, pour vous?
Alors, un photographe, souvent, j'ai pensé que être un photographe professionnel, c'était être capable de faire la photo mercredi prochain à 4h de l'après-midi, quoi qu'il arrive. Parce que c'est une commande. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des commandes. Donc, le problème pour moi, c'était ça. Après, je ne sais pas ce que c'est de partir dans la rue le matin, de déambuler, de traquer l'image parfaite de quelque chose qu'on a en tête. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec des commandes.
C'est un artiste aussi, le photographe?
Oui. Enfin, moi, je dis évidemment que je suis un artisan plutôt qu'un artiste, mais moi, je sens que je vais peut-être devenir artiste.
Et en quoi la présence d'un artiste comme Leonard Cohen, par exemple, dont vous avez partagé la vie, a pu vous inspirer, vous enrichir? Qu'est-ce qui vous a appris peut-être sur vous et sur votre propre travail?
D'abord, il avait un regard très bienveillant sur mon travail, et puis donc ça m'encourageait, venant de quelqu'un qui savait faire des choses si belles, comme les textes qu'il écrivait, comme les musiques, et les interpréter de façon si magistrale. Mais c'était plutôt une vraie vie ensemble, à partager des choses rien, des choses simples de la vie quotidienne, plutôt que de... Je ne sentais pas un coude à coude de deux personnes qui sont dans la création, comme vous dites. Ça, je crois que ni lui ni moi ne sentait ça, quoi. C'était plus doux que ça et plus immédiat, plus spontané.
Vous voulez pas entendre sa voix?
Non, enfin, j'ai pas essayé. À chaque fois que j'entends à la radio ou que quelqu'un me croit me faire plaisir en m'envoyant quelque chose sur mon ordinateur, ça me fait vraiment pleurer.
Non, on pleure pas ici alors. On va rester dans l'instant, dans le présent, dans le maintenant, avec une sublime reprise de Leonard Cohen, si vous le voulez bien, par la chanteuse canadienne Feist, qui reprenait l'année dernière Hey, That's No Way to Say Goodbye. Vous êtes sur France Inter avec Dominique Isserman. Vous écoutez Boomerang.
I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, and hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know that my love goes with you and your love stays with me. changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains or things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow and hate. There's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smile like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow and hate. There's no way to say goodbye.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle a une crinière blonde de conte de fées, vous savez, à faire pâlir les Rapunzel, Belle au bois dormant et autres reines des neiges. Alors nul besoin de crier libérée, délivrée, je vous vois venir. Elle l'est déjà. Hein, tout cheveux dehors, regard bleu teinté de circonspection depuis que j'ai évoqué la reine des neiges. Et je la comprends, hein, quelque part, avec son écharpe autour du cou. Et une épingle, étrangement, une épingle en or, sur le pull noir, la photographe Dominique Isserman, invitée de Boomerang ce matin pour parler de son art de la photo. Et j'aimerais qu'on revienne aux origines. Dominique, est-ce que vous vous souvenez de votre première photo ?
Oui, j'avais 4 ans et j'ai photographié ma maman en train d'étendre du linge dans la cour.
Vous l'avez gardée cette photo ?
Oui, elle est quelque part avec un bord cranté là sur le côté.
Mais surtout, votre avis, est-ce qu'elle disait déjà quelque chose de la photographe que vous deviendriez ?
Oui, parce que le premier livre que j'ai fait, c'était Anne Rohar, nue dans des draps. Donc je pense que j'avais gardé l'image du drap. J'ai mis pas mal de draps dans mes photos, oui.
Et après cette photo de votre mère, qu'est-ce que vous avez photographié ? Des draps ?
Alors après, ça, c'est la vocation, c'est un peu ralenti. Et après, j'ai photographié pas mal de gens dans, autour de moi, ma sœur, mon frère. J'ai fait ma première photo de mode avec ma sœur.
Et à l'époque, vous développiez toute seule ?
Oui, on développait le soir dans un labo avec un ami.
Quel labo ?
Ah, mais ses parents avaient une usine de caténaires, c'est des trucs pour tenir les lignes à haute tension. Et il y avait un petit labo parce qu'ils faisaient des dessins industriels, des reproductions, etc. Donc on utilisait le petit labo la nuit.
Quelle sensation est-ce qu'on a, Dominique Isserman, lorsque la photo se matérialise sur le papier ?
Ah, c'est beau quand une photo apparaît. Moi, c'est un moment qui me plaît. J'ai filmé d'ailleurs des petits films comme ça. J'ai filmé tout le livre sur Laetitia Casta quand il était imprimé, quand il était à l'impression. Et que ça apparaisse dans le bain d'un révélateur, que ça apparaisse chez l'imprimeur, dans les pages du livre, l'encre qui fait flaque, qui se répand comme ça, et finalement pour former une image, simplement avec des tons, enfin dans mon cas c'est plutôt du noir et blanc, dans des tons de gris, de noir et de plus ou moins foncé, clair et tout, c'est magique, c'est magnifique.
On dirait un fantôme, vous trouvez pas ?
Oui, complètement, mais je suis très intéressée par ce thème du fantôme de toute façon.
Alors on va en faire surgir un fantôme, tiens.
Ce qui a déclenché l'écriture, c'était le regret de photos ratées, en fait, de photos que j'ai pas pu faire, de photos qui se sont révélées invisibles, fantomatiques. Et donc j'ai essayé de décrire pour retrouver le sentiment que j'aurais voulu donner avec ces photos. J'essaie de photographier les gens que j'aime bien ou de faire des photos quand je suis en voyage, un peu comme tout le monde. Mais je suis plutôt un mauvais technicien, et donc je rate beaucoup de photos. Donc j'ai essayé souvent, enfin par l'écriture, de rattraper ce que j'avais pas réussi avec la photo. Et j'ai essayé d'imaginer des histoires, en fait. D'autres histoires, peut-être, que celles que me racontaient les photos, qui sont toujours un peu interchangeables et un peu les mêmes d'une famille à l'autre. Moi, j'aime beaucoup regarder les photos pour rêver, comme ça.
C'est la voix d'Hervé Guibert que j'ai choisi de vous faire entendre ce matin, en 1981, au micro de Roger Vrigny, Dominique Isserman. Pourquoi lui, à votre avis ? Pour le rêve ?
Et ça me touche beaucoup d'entendre sa voix maintenant, cette façon de parler tellement particulière qu'il avait, de placer sa bouche pour parler aussi. Moi, j'ai travaillé avec Hervé pour le journal 20 ans, qui était dirigé par Anne-Marie Perrier. Et elle nous avait engagés comme équipe de choc. On allait faire le festival de Cannes, tous les deux ensemble. Moi, j'avais ma moto, il était derrière. Et on allait interviewer, photographier les gens sur la croisette, dans leur chambre d'hôtel. On a fait d'autres reportages aussi. Le plus cocasse, c'était sans doute à Lisieux. On a fait quelque chose sur les vendeuses de souvenirs, des lanceurs de couteaux. Enfin, c'était... toujours extraordinaire avec Hervé, parce qu'il avait un point de vue très, très particulier sur chaque chose. Et moi, je faisais les photos et lui écrivait les textes. Enfin, on s'entendait super bien.
Il dit qu'il rêve devant les photos. Vous aussi ?
Oui, oui.
Vous rêvez de quoi ?
Je rêve, je sais pas, d'un monde qu'on ne voit pas.
Ce qu'il dit aussi dans l'archive qu'on vient d'entendre, c'est que chez lui, la photographie et l'écriture, ce sont des pratiques complémentaires, en fait. Est-ce que l'écriture a une place dans votre pratique de la photographie, vous ?
Mais en fait, j'écrivais toujours sous mes photos une ligne de texte. J'ai commencé comme ça, j'écrivais toujours un petit commentaire. Puis quand j'ai vu les photos de Duane Michaels, qui utilise pratiquement tout le temps ce procédé, j'ai trouvé ça tellement bien, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, que je sais pas, je me suis un peu détournée de cette voie pour en prendre une autre.
Mais parce qu'en me penchant sur votre travail, je me suis rendu compte que vous aviez constamment été entourée de gens qui écrivaient. Que ce soit Hervé Guibert ou Leonard Cohen, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, mais je suis très amoureuse comme ça de la littérature. Enfin, c'est quelque chose que je lisais énormément quand j'étais enfant. Et le texte vous embarque sur des images sans doute encore plus forte que n'importe quelle photo qu'on pourrait faire.
Ah, vraiment ?
Mais je me demande, justement, en lisant certains écrivains, je me dis qu'on ne peut pas arriver à la cheville avec des photos, parce que ce qu'ils décrivent est absolument indescriptible au sens de la description possible avec la peinture, la photographie, la sculpture. L'évocation par les mots, je crois, est tellement forte que c'est inégalable.
Vous avez devant vos yeux un texte de Samuel Beckett.
Oui.
Un extrait que vous avez choisi de Textes et nouvelles sur rien, paru en 1955 aux éditions de Minuit.
J'ai choisi parce que c'est le livre que je suis en train de lire. Donc il y a tellement de livres que j'aime, tellement de textes auxquels j'aurais pu penser. Mais celui-là, c'est celui que je suis en train de lire, que j'ai lu dans le train, là, ce dimanche.
Alors on essaye de se le mettre en image, en vous écoutant Dominique Isserman.
C'était quand même une demeure. Je prenais mon repos sur une couche de fougère que je cueillis moi-même avec peine. Un jour, je ne pus me lever. La vache me sauva. Aiguillonnée par le brouillard glacial, elle venait se mettre à l'abri. Ce n'était sans doute pas la première fois. Elle ne devait pas me voir. J'essayais de la téter, sans grand succès. Son pis était couvert de fiente. J'ôtais mon chapeau et je me mis à la traire là-dedans, en faisant appel à mes dernières forces. Le lait se répandait par terre, mais je me dis, cela ne fait rien, c'est gratuit. Elle me traîna à travers le plancher, ne s'arrêtant de temps en temps que pour me décocher un coup de sabot. Je ne savais pas que nos vaches pouvaient être méchantes, elles aussi. On avait dû récemment la traire. M'agrippant d'une main au pis et de l'autre, je maintenais le chapeau en place. Mais elle finit par avoir le dessus, car elle me traîna à travers le seuil et jusque dans des fougères géantes et ruisselantes où force me fut de lâcher prise. En buvant le lait, je me reprochais de ce que je venais de faire. Je ne pouvais plus compter sur la vache. Et elle mettrait les autres au courant. Plus maître de moi, j'aurais pu en faire une amie. Elle serait venue tous les jours, suivie peut-être par d'autres vaches. J'aurais appris à faire du beurre, du fromage. Mais je me dis, non, tout est pour le mieux. C'est pas extraordinaire ?
Assez extraordinaire. Et c'est pour le moins surprenant. Merci infiniment, Dominique Isserman, d'être venu faire un tour d'embouement, de nous avoir parlé de beauté avec tant de générosité. Ça nous fait un bien fou. Je précise qu'on peut voir l'une de vos photographies à la Maison Européenne de la Photographie en ce moment. Tout de suite, on va écouter les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux-deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je tâcherai ta moue et un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander, car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser, t'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquerai la nuque sans que tu révulses, et je serai doux pute. Je serai fou.
Quartier des Lunes, Eddy de Préto sur France Inter, et tout de suite Sonia de Villers les Médias.
Salut Augustin, à demain.
À demain.